Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message.
Bonjour à tous, il est présentement 6h01 de l'après-midi, on est mercredi le 7 septembre 2022. Je m'appelle Mycélium, vous écoutez Audio Smut sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et aujourd'hui, en studio, en live, c'est ma deuxième fois en live, j'ai la chance d'être accompagné par Ève Martin-Jalbert. Professeur de littérature au Cégep et autrice de superbes livres. Donc, elle est présente aujourd'hui en studio pour qu'on discute un peu, qu'on fasse un petit entretien, qu'on discute de son travail et particulièrement de son plus récent ouvrage, Paroles sorcières. Donc, je lui laisse la parole pour se présenter.
Allô, Mycélium! comme tu as dit, mon travail principal, c'est d'enseigner la littérature au cégep, d'enseigner ou bien la littérature ou le français au cégep. Puis, à côté de ça, j'essaie de continuer de réfléchir, et c'est ce qui s'est passé avec ce livre, en fait. C'est issu de mon travail d'enseignement. Et voilà. Et je milite aussi à côté de ça, ici et là, dans quelques organisations, des collectifs, des comités contre le racisme et contre la transphobie aussi. Et puis, voilà.
Bien, merci. J'aimerais bien peut-être commencer la discussion en parlant de comment on s'est rencontrés, parce que c'est un peu cute, honnêtement. Pendant 2 ans, je travaillais dans un café co-op qui est depuis décédé, rest in peace, le KGB. Sur le boulevard Saint-Laurent, peut-être que plusieurs homosexuels et transsexuels qui nous écoutent en ce moment vont reconnaître ce nom, ce lieu emblématique qui a quand même existé pendant, je pense, quelque chose comme 16 ans. Charlotte à Jess et Merv qui l'ont ouvert dans le temps que c'était dans le Mainland. Et Charlotte à tous les gens qui ont travaillé autant qu'ils pouvaient pour que ça reste ouvert. Et donc, c'est ça. Donc, je travaillais là pendant un bon moment. Et puis, Ève Martin était un regular. Elle venait souvent et je les voyais corriger ses examens, ses travaux de cours. Et de fil en aiguille, de café en café, on a papoté, appris à se connaître. Et finalement, justement, j'ai découvert que non seulement elle était professeure, mais aussi écrivain. Et puis c'est ça, je suis tombé relativement, il y a quelques mois en fait, sur La Parole sorcière à la librairie Drowning Quarterly. Et en voyant son nom, j'ai pas pu m'en empêcher. J'étais comme, ah, faut que je la lise. Et puis j'ai pas été déçu. Tu sais, des fois on voit, je peux te dire un petit peu mon impression là, de ton travail. des fois on voit analyse littéraire, tu sais, puis pour en avoir fait beaucoup justement. Au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. On dit, ah, ça va être un peu dull, tu sais, ça va être un peu clinique, tu sais. Puis c'est vraiment le contraire que j'ai expérimenté avec ton livre. Je trouve que c'est super riche. C'est plus aussi que de la théorie. Ça s'appuie sur de la théorie pour donner des outils vraiment concrets de résistance. Il y a des deep dives là, en profondeur dans les questions d'oppression avec beaucoup de nuances, beaucoup de... comme une genre de tendresse, genre quelque chose de vraiment comme qui rentre dedans, mais avec douceur, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup plu. Puis j'avais hâte qu'on en parle ensemble. Donc c'est ça.
merci de m'accueillir, merci de ce bel accueil, merci de l'accueil que tu faisais à l'époque au Kajibi, parce que Kajibi, moi, ça doit être un endroit où je me sentais bien et où on pouvait être bien avec nos irrégularités, nos aspérités, puis tu faisais partie des gens qui ont contribué à faire cet espace un espace accueillant. Merci.
Ah, merci à toi. Puis peut-être, si tu veux un peu nous parler de ton parcours et ton processus de recherche pour La Parole sorcière.
D'abord, j'ai passé des années à enseigner les thématiques la représentation des rapports de domination. Ça a commencé comme ça. Donc, il y avait des aspects, il y avait des passages, du coup, des cours qui portaient sur le capitalisme, sur la guerre, sur le racisme, sur le sexisme, sur le colonialisme. Et puis, c'était toujours dans le cadre d'un cours de littérature et culture. Donc, je me servais beaucoup de différentes œuvres, à la fois littéraires et artistiques, pour aborder ces enjeux-là. Et ben, ça soulevait toutes sortes de questions, en fait. Ça soulevait la question de... qu'est-ce qui fait qu'une œuvre qui nous parle de ces choses-là ne les reconduit pas, ne les banalise pas? Et ça ne va pas de soi, parce que des récits sur la guerre, il y a des récits qui peuvent être très militaristes. Alors qu'il y en a d'autres où tu dis « non, c'est franchement anti-militariste », tu finis ça puis tu dis « bon, allez, il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher la guerre ou les guerres ». Et ce qui m'intéressait, c'était ben, qu'est-ce qu'il y a dans des œuvres qu'il n'y a pas dans d'autres? Puis, évidemment, les œuvres, ben, c'est pas des œuvres qui nous disent exactement comment penser les choses, mais il y a toutes sortes d'opérations cognitives, d'opérations affectives et expressives qui sont employées pour nous faire ressentir des choses d'une certaine façon. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont on créait le sentiment de l'inacceptable devant des réalités. Puis, et puis aussi, j'enseignais des choses et puis j'étais très, très attentive à la réception, comment les gens le recevaient. Puis il y a eu des moments où il y avait des gens qui me disaient « mais c'est déprimant ». Puis là, j'étais comme...
Des élèves, ça?
Oui. Ouais. Puis là, je fais comme « attends, il ne faut pas que ce soit déprimant. Il faut que, oui, on aborde des aspects moins heureux de l'humanité, des sociétés, mais pour moi, il y avait toujours, là, peut-être c'est ma formation avec la pensée peut-être d'Adorno ou d'autres, mais qui disent, bon, il y a le salut par la forme, il y a le salut parce que des êtres humains font de ces réalités-là qui sont dramatiques et qui sont terribles et traumatisantes. Donc, il y avait un salut quelque part. Mais ça ne convainquait pas tout le monde. Mmh. Et puis là, c'était... Là, je suis devenu très, très sensible à qu'est-ce qu'il y a dans des œuvres qui donnent envie de se lever pour faire quelque chose et d'autres qui nous écrasent. Mmh. Et là, sur cette base-là, là, j'ai commencé à vraiment être très sensible à toutes les opérations qui sont faites et qui sont réunies ici sous le terme de parole sorcière, mais qui est comme un ensemble d'opérations magiques qui sont faites pour montrer les dominations et pour nous amener à les dépasser. Et puis dans le livre, je me sers pour parler de ce pivot-là, de ces deux types de représentations-là, je me sers de la confrontation en deux manières de parler des systèmes totalitaires. Je me sers de 1984 de George Orwell et de la pièce de théâtre de Bertolt Brecht, Maître Puntilla et son balai Mati. Deux œuvres écrites à peu près au même moment et qui nous parlent, toutes les deux, de rapports d'emprise totalitaire sur des êtres, sur des collectivités. Et 1984, c'est une œuvre, moi, que j'avais lue, que j'ai relue et qui me déprime. Bon, j'ai des collègues qui me disent « moi, ça me galvanise, ça me stimule, mais moi, ça me... » Bon, j'ai quand même suivi mes intuitions, j'ai suivi là où mon cœur battait, et là où mon cœur bat, c'était pas avec 1984, c'était avec Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nous montre des choses très semblables, mais on finit de lire, et puis on se dit « bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? » On fait quelque chose, et il y a la... Bertolt Brecht voulait transmettre les joies de la libération, puis à certains égards, moi, ça marche sur moi, puis j'ai essayé de me demander, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant dans une œuvre comme ça? Ça se peut que ça marche pas chez tout le monde, puis je suis pas du tout en train de dire que la sorcellerie ou la magie qui opère dans certains textes, certaines œuvres, va forcément fonctionner sur tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Mais il y a quand même des choses qui sont déposées dans des œuvres. Puis, c'était quoi ces choses-là? Bon, pour revenir à la confrontation entre Bertolt Brecht et puis 1984, bien, 1984 nous montre la possibilité d'une résistance qui finit par s'atténuer, qui finit par tomber, puis il n'y a plus de résistance possible avec le personnage de Winston Smith qui finit par se blottir contre le Big Brother. Et la brèche possiblement ouverte par le résistant... j'oublie son nom. Emmanuel Wallenstein. J'oublie son nom, excusez-moi. Sa brèche ouverte tombe. C'est un coup d'épée dans l'eau aussi. Alors que chez Bertolt Brecht, ça commence à l'inverse. On a Puntilla qui... Puntilla, c'est un dictateur, c'est un patron, propriétaire, grossier et alcoolique. Et quand il boit, il devient très « friendly ». Et il devient très « allez, il n'y a plus de différence sociale, viens t'asseoir, allez, on va parler contre le capitalisme, l'argent pue, ça ne m'intéresse pas, j'aimerais ça qu'on soit égal, puis « oh, non, non, t'es mon frère, etc. » Et en premier, c'est très, très séduisant. Puis finalement, on se rend compte, et c'est le personnage de Matty, le valet, s'en rend compte que c'est de la bullshit, parce que lui, ses pouvoirs, ils restent toujours intacts. Et puis, c'est juste une manière de comme rester encore puissant. C'est de la manipulation.
On est une grande famille.
Exactement.
C'est ce discours-là des corporations.
Ouais. Exactement. Puis j'ai trouvé un passage chez Franz Fanon dans Peau noire, masque blanc, où il parle exactement de ça, du blanc ou des personnes qui occupent un pouvoir, puis qui invitent à leur table en disant « Allez, on est tous égaux maintenant. » Il dit « Ben là, les gens ont accès à quelque chose. » Ils n'ont pas agi dans leur libération. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais toujours est-il qu'à la fin, Matty, il quitte la relation en disant « Non, non, l'eau ne se mélange pas à l'huile et des bons maîtres, on va en avoir un quand on va être nos propres maîtres. » Et là, tu fais comme « OK, là, c'est autre chose comme ouverture. Là, il y a une brèche qui est ouverte. » Puis ça, c'est les œuvres qui m'intéressaient. Et c'est ce sillon-là que j'ai voulu... Cette veine que j'ai voulu suivre. Puis que je pense avoir suivi pendant assez longtemps pour faire ce livre.
Ce ruisseau qui éventuellement mène à l'océan. Oui. Là, j'aime beaucoup t'entendre parler de ça parce que moi, j'ai vraiment grandi. Là. Quand j'étais ado, je tripais sur justement des œuvres de science-fiction sociale comme 1984 ou Brave New World ou trucs comme ça. Là. J'adorais. Fahrenheit 451, des trucs comme ça. Là. Je tripais bien raide. Puis j'ai l'impression qu'on en a tellement bouffé culturellement de ces espèces de fiction pas tout à fait, qui sont très proches de la réalité et qui sont complètement dystopiques. Puis c'est effectivement rare qu'il y ait des brèches d'émancipation. Puis je pense au sous-titre de ton livre, qui est « Magie, littérature, émancipation ». C'est beaucoup là-dessus que tu focuses. Puis ça me fait penser justement, en tout cas, je sais pas si je fais trop une digression, mais j'ai lu dans... l'année dernière, The Parable of the Sower, puis The Parable of the Talent, de Octavia E. Butler, qui est une auteure de science-fiction complètement incroyable. Ça a vraiment changé ma vie, ce livre-là. Je trouve c'est vraiment comme un texte religieux, là, tu sais, qui donne des guidelines très, 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 très claires là, de quoi faire face à la crise, face à des niveaux de crise inimaginables, et des niveaux d'horreur et de pression, puis qui sont déjà finalement dans le présent. T'sais. On a un peu un discours sur sur l'apocalypse là, qui est non seulement pas génératif, mais nécropolitique. On assume que c'est déjà fini. T'sais. Et que c'est pas encore arrivé, alors que justement quand on pense aux communautés noires ou autochtones, l'apocalypse est déjà produite il y a 500 ans. Tu sais, elle est tout le temps avec nous, elle est tout le temps always already. Puis on manque un peu d'une genre de perspective spéculative sur le futur, où il y a comme un possible dans nos visions. Tu sais. Puis c'est beaucoup ça qui me travaille en ce moment là. C'est Bayo Akomolafe parle de ça, de comment le présent est déjà fait, le futur est déjà, c'est déjà produit, et le passé est encore à écrire. Et les ancêtres ont un pouvoir d'action sur le présent. Et ça me bosse beaucoup là. Comment on peut voir ce qui nous arrive, l'ampleur de l'horreur, de la guerre, de l'inégalité, de la violence, sous un œil spéculatif, tu sais. Puis j'ai senti aussi ça, cette espèce de désir-là dans ton travail, d'aller chercher des œuvres de partout, des œuvres fondamentalement là, québécoises, francophones, des œuvres américaines, des œuvres créoles, des œuvres, tu sais, qui est de différentes époques, puis d'essayer de voir où est le croisement, où est-ce qu'ils se rejoignent pour créer une vision qui est émancipatrice, où il y a une brèche, comme tu dis, qui s'ouvre, qui nous permet de voir autre chose, d'imaginer autre chose, peut-être même d'accéder à autre chose.
Tout à fait. Tout l'enjeu là-dedans, c'est les brèches, justement. C'est les brèches, c'est des restes qui sont des ouvertures vers autre chose, éventuellement pour imaginer autre chose, mais en tout cas une brèche qui rend quelque chose de possible. Puis j'ai essayé d'être attentive à des différentes façons de créer des brèches. Quand Audre Lorde fait son poème, sa litanie pour la survie, ou une ode aux survivantes, elle commence par dresser une espèce de mur, en quelque sorte, des effets des violences subies sur les personnes, par une très longue dédicace qui est à toutes celles qui restent dans l'embrasure de la porte, qui restent dans le silence. Et donc là, mais il y a un moment où cette dédicace se transforme à vous toutes, cette chose qui est un... Je ne me souviens pas, je le fais vraiment par cœur, il faudrait que je le retrouve, là, mais ce cadeau et qui est un peu un constat très simple, c'est « Nous n'étions jamais censés survivre. » Et ça, c'est comme une phrase qui est... Moi, je trouve vraiment magnifique parce que la brèche, elle est ouverte, là. C'est comme cette espèce de conviction que on aurait pu être écrasé, mais on ne l'est pas. Il y a quelque chose qui persiste. Il y a une résistance dans le seul fait de survivre et c'est énorme. Mm-hmm. Et elle a dit que c'est à la fois un cadeau et cette phrase un peu simple, mais qui est très puissante. Qui est très puissante. Et quand on lit ce texte, moi, je trouve que ça marche tout à fait. Ouais. Nous n'étions jamais censés survivre parce qu'on sait qu'il y en a qui n'ont pas survécu. Et nous, on survit. Et ça, c'est déjà immense. Et c'est très proche de... Je viens tout juste de lire Léane Bétassamo-Saki-Simpson sur « Danser sur le dos de notre tortue » et sa conception de la résistance est magnifique parce qu'elle nous dit « Si on sort des schèmes de pensée impérialistes, coloniaux, il faut sortir de l'idée qu'on se fait de la résistance comme des grandes mobilisations sociales. » Il existait, propose-t-elle, une résistance dans le seul fait d'avoir survécu à travers... Exactement, à travers ces siècles-là, et nos aînés l'ont fait, c'est une forme de résistance, ils ont gardé intactes les semences d'un monde à venir. Et ça, je trouve ça très beau, en fait. Puis moi, j'ai essayé comme d'être sensible aux diverses formes de ces résistances-là, aux diverses formes de ces brèches-là vers autre chose de possible.
Puis les deux exemples que tu viens de donner, je trouve, illustrent bien le concept, un concept qui m'a beaucoup marqué dans le livre, qui est le sortilège versus le contre-sortilège. C'est que finalement, il y a moyen de répliquer. Il y a moyen de faire front, de dire non, de refuser le sortilège, de renvoyer la balle. Est-ce que tu aimerais un petit peu parler de ce concept-là?
C'est très juste et même je te dirais que c'est... Pardon. C'est là peut-être qu'est venue l'intuition pour moi d'aller du côté de la sorcellerie. J'avais lu la sorcellerie capitaliste de Isabelle Stengers et puis Philippe Pinard. Ça m'avait beaucoup impressionné. J'avais beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de brèches ouvertes dans un ouvrage comme celui-là. Beaucoup de jouras, beaucoup d'ouvertures vers les prises. J'avais retenu quand même que la sorcellerie, elle était du côté des dominations. C'était les dominations qui nous ensorcelaient, qui nous font vont pas forcément nous endormir, mais qui nous donnent l'impression qu'on est impuissant, impuissante, et il n'y a rien à faire. Nos âmes sont capturées. On peut très bien comprendre ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme cette espèce de sentiment-là qui est créé. Puis, avec le temps, justement, c'est le contre-sortilège qui m'a intéressé. C'est comment arriver à sortir de ça. On sait par notre éducation qui vient d'Europe, que la rationalité critique, c'est bon pour comprendre les procédés rhétoriques. On peut avoir des guides, des petits guides d'autodéfense intellectuelle, puis que la rationalité, c'est très bien. Mais moi, mon hypothèse, c'était que ce serait bien aussi de recourir à diverses autres dimensions de notre être, qui n'est pas juste la dimension rationnelle, mais dimension affective, dimension spirituelle aussi, pour maximiser les chances de résister, de créer des brèches. Et c'est comme ça que le sortilège contre sortilège est venu, ou une forme de sorcellerie contre une autre. Une forme de sorcellerie qu'on pourrait dire encratique, c'est-à-dire celle qui est celle du côté du pouvoir, et une sorcellerie acratique, du côté donc de la résistance au pouvoir. C'est une opposition qu'utilise Roland Barthes quelque part. Je ne l'ai pas trop retenu parce qu'il y a cette espèce de résistance un peu à la notion de pouvoir, alors que le pouvoir, il est extrêmement important, on en a besoin, précisément, on a besoin du pouvoir du dedans pour pouvoir agir sur le pouvoir ensemble.
Comme Starhawk dit.
Puis là, Starhawk, pour moi, est une référence fondamentale, évidemment, en la matière, exactement. Pouvoir du dedans, pouvoir avec et pouvoir dans le monde, en espérant toujours que notre pouvoir ne se transforme pas en un pouvoir sûr, autrui, un pouvoir de domination, de manipulation, etc.
Ouais, c'est ça qu'il faut se rappeler avec le pouvoir, c'est qu'il est mobile, puis que c'est une espèce de trickster là, qui change de visage, qui change de nom, qui se déguise. Là. Dans la Bible, ça dit beaucoup que Satan, c'est un maître costumier. Puis je trouve que justement l'Église catholique est un excellent exemple de ça, de comment finalement la parole du Christ a été genre détournée pour faire les choses les plus evil possibles et imaginables. Puis il y a la mobilité du pouvoir, comment il morphe là, comme une espèce de blob là, qui mange certaines choses puis qui rejette d'autres, il bouge, il est pas fixe, il y a pas un nom et un visage clair, puis peut-être comme un clin d'œil à 1984, on pourrait lui donner ça, que le fait que Big Brother a pas de visage, puis c'est juste une espèce de chose flottante non nommée, c'est peut-être une des seules choses que vraiment le livre a réussi à créer comme image forte là, c'est comme l'espèce de impossible à attraper comme la fumée, de cette nature-là du pouvoir.
Il y a quand même son visage sur les affiches et sur les murs, mais c'est vrai qu'il reste quelque chose de très, très diffus, effectivement.
Ben là, en fait, t'as un exercice à nous proposer pour aujourd'hui. si ça tente, on pourrait jump right into it, à moins que t'aies un petit mot de la fin pour notre entretien. Donc, en fait...
Ben, c'est sûr qu'avant, je peux te laisser présenter les choses, mais ensuite, dans le livre, il y a une série d'opérations magiques qui sont présentées, c'est-à-dire comme presque comme des possibles voies à expérimenter. Et peut-être que, justement, en faisant le petit exercice, comme tu dis, peut-être que je vais avoir l'occasion d'y revenir puis, pour donner un petit peu plus d'idées, mais allons-y.
Oui, ce serait chouette. Oui, ça serait le fun. Donc, ton exercice, que je trouve quand même vraiment amusant pour la radio particulièrement, c'est de... Parce que dans ton livre, t'analyses de la littérature, des bouquins, mais aussi d'autres formes littéraires, donc des poèmes, et aussi beaucoup, beaucoup de chansons. Il y a quelque chose de très musical, de très... des spells, là, les spells que la musique peut être. Les ensorcellements et les incantations que les chansons peuvent être. Donc, tu nous as proposé une série une petite playlist que tu aimerais analyser pour nous. Donc, ça commence tout de suite avec...
Nina Simone, je crois, Backlash Blues.
Exactement.
Est-ce que je la présente un peu avant ou,
comme
ou
tu
on
veux.
L'écoute?
Un peu, comme tu veux.
Peut-être, je ne sais pas si j'ai pas besoin de la lire en traduction.
Non.
Ben, c'est une chanson qui est d'abord et avant tout un poème de Langston Hughes. Langston Hughes meurt en 1967 et un de ses derniers poèmes, c'est Backlash Blues, que reprend la même année Nina Simone sur son album Nina Simone Sings the Blues. Et puis, voilà, c'est un blues dédié à Backlash, à qui elle va s'adresser. On y va? C'est une version en spectacle.
Ouais, sa version live au Casino Kursaal en juin 68. Hey now. Is my mic still on? It's on.
song is called Backlash.
Je trouve qu'à la lumière de ce qu'on disait tout à l'heure sur les brèches, c'est magnifique la dernière chose qu'elle a dite sur Langston Hughes m'a dit d'ouvrir les portes et les ouvrir tellement grandes qu'à un moment donné, il faut que les autres sachent qu'ils n'auront même plus de place où se cacher. C'est vraiment une image absolument magnifique sur l'ouverture des brèches, là. Moi, ce que je trouve vraiment magnifique de cette chanson-là, c'est la trouvaille de le backlash comme interlocuteur. Ça, je trouve ça très, très puissant. Ça vient avec deux opérations qui sont des opérations littéraires. Excuse-moi, Miss Liam, mais tu vas avoir l'impression de revenir dans tes cours de littérature.
Non, ça me fait plaisir.
C'est l'apostrophe et la personnification. Donc, l'apostrophe, c'est très utilisé dans des œuvres où on travaille avec l'énergie de la transformation, une espèce de drive où on va aller affronter. Puis... Donc, l'apostrophe, ça donne un degré supplémentaire d'impétuosité à la parole. Et on l'a ici. C'est un procédé qu'on trouve toujours, qui donc anticipe en quelque sorte le contact, la confrontation, et qui engage un sujet et un dire et un interlocuteur qui est pris à témoin de ce qu'on a à dire. Et donc, le « je » ici de Langston Hughes, de Nina Simone, est en position de sujet agissant, en s'adressant à l'autre. Le deuxième procédé, c'est la personnification. Ça, on n'a pas l'espèce de Big Brother diffus. Enfin, Big Brother, c'est une personnification aussi, mais c'est pas un backlash, c'est pas le retour de bâton, c'est pas la violence raciste qu'on trouve disséminée, c'est une personne. Et elle est face à nous et on peut s'adresser à elle. Et là, c'est comme on la rassemble à un endroit. Ça, c'est un procédé qui est vraiment intéressant, qui est vraiment puissant, qui permet justement d'augmenter le pouvoir du dedans. Mmh. Et le pouvoir du dedans pour agir ici. Puis ensuite, il y a l'énergie de cette chanson-là qui est magnifique. On a un blues qui n'est pas un blues mélancolique. Ici, c'est un blues qui est nonchalant, une certaine comme assurance. Et l'affect typique du blues, l'affect mélancolique ici, il est thématisé. C'est le backlash du blues. Et à la fin, dans la version qu'on a entendue, on n'a pas entendu Nina Simone lire les derniers vers de Langston Hughes qui était « You're the one who will have the blues, not me, wait and see. » C'est toi qui vas avoir le blues. Et là, par cet énoncé performatif, cet énoncé qui fait advenir quelque chose, on renvoie l'affect triste, négatif, mélancolique, on le renvoie du côté de l'agresseur. Et ça, c'est un geste qui est vraiment magnifique, qui marche, qui est vraiment puissant. Exactement comme on renvoie une grenade lacrymogène dans le camp des flics. Et c'est comme ça que c'est fait. Et ces trois éléments-là, on les trouve dans la deuxième chanson aussi de Chico Buarque, qu'on va pouvoir écouter. Est-ce que, là, c'est une chanson en portugais, en brésilien. Peut-être que ce serait bien que je l'introduise un petit peu, peut-être même que je traduise un tout petit peu. Chico Buarque est un auteur-compositeur brésilien. À ce moment-là, il est assez jeune. Il est toujours vivant, Chico Buarque. La chanson date de 1970. Ça fait quelques années qu'il joue d'une certaine popularité et dans le renouveau de la chanson traditionnelle brésilienne. Il est beaucoup associé, moi, en tout cas dans ma tête, je l'associe beaucoup au samba et puis bossa nova. Et on est en pleine dictature militaire au Brésil. Et Chico Buarque est engagé dans différents mouvements. Et au lendemain d'un des décrets de la dictature, il est emprisonné, il est forcé à l'exil, il va revenir. C'est l'époque dure de la dictature, c'est sous la présidence de Médici. Puis c'est une violence incroyable, suspension des libertés, censure et... De façon incroyable, cette chanson-là est passée entre les mailles de la censure. Et on voit en ligne, on voit Chico Buarque la faire à la télévision d'État, sûrement, je pense. Peut-être pas, il faudrait que j'aie plus d'informations là-dessus. Et la petite anecdote dit que si elle est passée entre les mailles du filet, c'est qu'on a fait croire dans une chanson qui s'appelle « Apesar de você », qui veut dire « malgré toi », où là, il s'adresse encore. C'est encore ça, s'adresser au pouvoir, c'est adresser au dictateur. Mais... On aurait fait croire que cette chanson-là ne s'adressait pas à un dictateur, mais s'adressait à un coq qui chantait toute la journée. Et ça aurait passé, et ça aurait été... C'est quand même assez incroyable comme anecdote. Et voilà, on a un samba ici avec toutes sortes de... les instruments traditionnels. On a la musique de Chico Buarque. On a les percussions, bongo, maracas, cuica, batterie, guitare, des lignes de violon, des chœurs aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit à peu près ceci, c'est « Aujourd'hui, c'est toi qui commandes. Tu as parlé, un point, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Mon peuple, aujourd'hui, marche en parlant tout bas. » En parlant tout bas, je ne sais pas comment le traduire, parce que c'est, en français aussi, c'est intéressant. C'est en portugais, c'est « falando de lado », c'est « parler de côté » ou « parler tout bas ». Puis c'est intéressant parce que toute la pièce, toute la chanson fait un peu ça, parler un peu tout bas et à côté. Donc, « mon peuple parle à tout bas ou de côté en regardant par terre. » Malgré toi, demain doit être un autre jour, ça c'est le refrain, et je te pose la question, où vas-tu te cacher de l'énorme euphorie? Comment vas-tu interdire le coq de chanter, l'eau pure de jaillir, les gens de s'aimer sans s'arrêter? Quand viendra le moment de ma souffrance, je te ferai payer les intérêts, je te jure, tout cet amour opprimé, ce cri étouffé, ce samba dans l'obscurité. Toi qui as inventé la tristesse, eh bien, et la finesse de la désinventer. Tu vas payer, et même deux fois, chaque larme versée de ma peine. Malgré toi, demain sera un autre jour. Je paye déjà pour voir le jardin fleurir sur lui que tu ne voulais pas. Tu vas devenir amer en voyant le jour rayonner sans t'en demander la permission. Et je vais mourir de rire, car ce jour doit venir plutôt que tu ne le crois. Apesar de você, etc., etc. Et puis, comment vas-tu étouffer ce cœur prêt à chanter devant toi? C'est ça qui est dit en substance dans cette chanson-là.
Amanhã vai Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Voilà, c'est la chanson « Apesar de você » qui est une chanson de côté parce que, je dis de côté parce que même le mot « parodie » en français veut dire parler à côté de, et c'est à la fois comme parler à côté, et donc ça, c'est toujours une ruse en quelque sorte, et c'est ce que je trouve vraiment magnifique. Cette chanson-là n'est pas un cri, c'est pas un appel non plus, c'est pas un appel à se soulever contre la... C'est juste un constat joyeux. Un constat joyeux, collectif en plus, à l'effet de cœur est là, est vraiment magnifique, qui est une critique par en dessous, évidemment, du pouvoir. Et en même temps, c'est une célébration. C'est une célébration incroyable, un hymne, une proclamation à la gloire de l'avenir dont on a comme l'assurance que ça va avoir lieu. C'est comme demain, ça va avoir lieu, puis toi, tu vas voir ce que tu vois. C'est vraiment magnifique. Et cet avenir-là est une récalcitrance. Mm-hmm. C'est vraiment une récalcitrance, c'est une brèche, comme on disait tout à l'heure, une brèche victorieuse qui ne peut pas être réprimée. C'est comme demain va venir, le jour va rayonner, le coq va chanter, l'eau pure va jaillir, le jardin va fleurir. Puis comme dans le prolongement de toute cette vie et de cette dimension et du monde vivant non humain, ben, il y a comme le prolongement tout naturel que toi, tu vas le payer. Toi, le dictateur, aussi, tu vas passer par là, puis nous, on va exister parce qu'on procède de cette même vie-là. Et dans le livre, j'ai vraiment comme je me suis beaucoup intéressé à ça, à cet ancrage-là dans la vie, cet ancrage-là dans le lien à la vie, dans le lien au vivant, comme une source extrêmement puissante de magie et de libération. Mm-hmm. Et c'est la même confiance qu'on trouve dans des chansons à la même époque, 1970, mm-hmm. C'est le début d'un temps nouveau de René-Claude Stéphane Venn ici au Québec, ou Jacques Michel, un nouveau jour va se lever. C'est très puissant de dire, c'est fini ce temps-là, et regarde, mais ça va avoir lieu. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas l'employer, il faut être sûr de notre coup, il ne faut pas que ce soit juste un énoncé qu'on veut faire advenir quelque chose, mais il faut qu'on puisse montrer qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et j'espère vraiment qu'au Brésil, un autre jour aussi va venir, cette présidence va se terminer de Bolsonaro.
Ouais. C'est vraiment beau, cette espèce d'affirmation biophile, cette espèce d'amour de la vie, qui est une forme de certitude, qui est une forme de foi. Mm-hmm. Une forme de foi en la vérité, puis en la préséance de la vie, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. Une vérité ancrée dans la vie, précisément. Une vérité au nom de la vie, une vérité enracinée dans la vie. Oui,
wow, merci pour ça. Une belle découverte.
Mm.
Est-ce qu'on passe à Violette de Anne-Sylvestre?
Oui! Bon, Anne-Sylvestre, c'est évidemment, elle occupe une place de choix dans La parole sorcière. C'est une personne extrêmement importante qui a contribué, entre autres, dans les années 70 à revaloriser la figure de la sorcière. Elle n'était pas seule, elle venait après d'autres, évidemment. Elle est magnifique, Anne-Sylvestre, dans plusieurs chansons pour renverser les verdicts sociaux, les assignations, les amoindrissements identitaires. Et je m'intéresse beaucoup à ça dans le livre pour voir de quelle façon des œuvres peuvent nous faire l'expérience que d'autres identités sont possibles, que d'autres mondes sont possibles et que d'autres langages sont possibles. Ça fait partie des opérations magiques. Et c'est ce qu'on trouve dans cette chanson-là, qui est une réplique au mépris et à l'amoindrissement identitaire qui a lieu à l'intérieur d'une interaction sociale apparemment banale. C'est Violette, qui est une femme âgée, qui se rend dans une boutique, qui se fait dire une parole âgiste. Et à partir de là, on a toute la réplique de la chanson.
C'est une version live à la Cigale en 2013.
Personne va me casser les pieds, a dit Violette à son boucher, qui la toisait de ses lunettes. Et pour la petite dame, ça sera quoi? Où ça, la petite dame? J'en vois pas, c'est pas une petite dame, Violette. 80 ans et des poussières, plus de 20 fois arrière-grand-mère, votre dédain lui fait pas peur. Les quelques années qui lui restent, elle veut les vivre à fond la caisse, elle aime pas les rétroviseurs. Et c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque. La 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 la. Venez pas dire que c'est gentil, que c'est un terme de sympathie. Gardez votre condescendance. Savez-vous à qui vous parlez? Ne blessez pas sa dignité, ne la replongez pas en enfance. C'est une dure enfant de la guerre, c'est du chien dent, pas de la bruyère. Elle a eu faim, elle a eu froid. Elle a grandi coûte que coûte, avec la neige sur la route, les pieds sur des semelles de bois. C'est pas un professeur d'histoire qui va lui dire ce qu'il faut croire. La 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 la. Violette, elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs et aux imbéciles. Elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile. Sous sa coiffure en courant d'air, elle a plus de vocabulaire que vous n'en connaîtrez jamais. Pour ce qui est de l'art de vivre, elle en sait plus que tout au livre. Nommer un arbre, elle le connaît. C'est pas un marchand de sornettes qui va lui en mettre plein la tête. La 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 la. Elle a fabriqué des enfants, pas pour en faire des perdants, et elle a côtoyé des hommes. Celui qui la couve des yeux, c'est pas non plus un petit monsieur. Il mérite le respect tout comme Violette, c'est pas une petite dame. Elle a vécu sa part de drame. Et si un jour elle doit tomber, quand vous la tiendrez dans vos griffes, comprenez qu'elle se rebiffe, vous qui viendrez pour la soigner. Et c'est pas un marchand de médoc qui va lui dire qu'elle débloque. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est pas une petite dame, Violette. Non mais...
Rest in peace, Anne Sylvestre.
Oui, ça me touche beaucoup de, à chaque fois que je l'entends, sachant qu'elle est décédée il y a si peu de temps. Cette chanson-là est vraiment magnifique parce qu'elle contient, me semble-t-il, plusieurs ingrédients d'une véritable auto-défense intellectuelle et personnelle. La première, tu sais, il y a bien sûr les répliques qu'on peut avoir. Tu sais, il faut quand même de temps en temps répondre quand on se fait agresser. Donc, la réplique ici, hein, c'est « Où ça, la petite dame, j'en vois pas hein? ». Ça, c'est la réplique de Violette. Super. Première chose que nous donne cette chanson-là comme élément d'autodéfense, mais nous donne aussi l'analyse de la situation, quand même. L'analyse de ce dont la phrase du boucher est la partie visible, c'est-à-dire d'une condescendance infantilisante. Savez-vous à qui vous parlez? Ne blessez pas sa dignité, ne la replongez pas en enfance. On est en train exactement de démonter l'intervention du boucher. Donc, analyser ce qui se passe. Autre élément, autre ingrédient, c'est la désidentification, ce que j'appellerais comme ça, après toute la philosophie de Jacques Rancière. Se désidentifier, c'est-à-dire se séparer d'une identité qui vient de l'extérieur et qui est amoindrissante. Une identité qui est focalisée ici sur l'âge et sur le passé. Et donc, séparer cette identité-là pour qu'apparaisse un être qui est traversé de désirs au présent et au futur. Et c'est ça qu'on a quand Anne Sylvestre dit les quelques années qui lui restent, elle veut les vivre à fond la caisse, elle n'aime pas les rétroviseurs, c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque. Violette, c'est un être de désir, qui est un être de désir au présent et au futur. Et ça, c'est une rupture complète avec l'âgisme. Mm-hmm. Magnifique. Autre ingrédient d'une autodéfense, c'est la reconstitution d'un amour propre, d'une grandeur qui se fait ici par le récit d'une vie digne. Et la chanson est en grande partie consacrée à ça, un récit qui élève symboliquement l'être. Violette, elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs, aux imbéciles, elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile, etc., etc. Puis enfin, une dernière chose qui est magnifique, c'est la forme de la chanson, le style de cette chanson-là. J'emprunte à Marielle Massé le principe de que une forme ou un style, c'est une disposition générique devant les choses. Et j'aime beaucoup ça, et je trouve beaucoup ça dans cette chanson-là. C'est-à-dire, on a la vivacité affirmative dans cette chanson-là, qui est exactement celle de Violette, qui est exactement celle d'Anne Sylvestre, qui est une magie incroyable. Et on a des octosyllabes, on a un rythme rapide, on a des images avec un aplomb, on a une versatilité dans les registres linguistiques, on a un ton résolu, tout ça forme une espèce de récalcitrant joyeuse incarnée par Anne Sylvestre. Mais en fait, c'est que, comme disait aussi Marielle Massé, c'est que le style, c'est comme une disposition qui se passe d'une personne à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Puis on a ça, comme il y a quelque chose dans la forme qui est donnée à Violette ou que Violette a et qui est donnée à la chanson et qui est vraiment magnifique. Donc la forme, c'est pas juste un contenant, mais c'est comme une espèce de proposition de forme de vie, une proposition de souveraineté, d'autodétermination et de récalcitrance dans le monde. Et ça, je trouve ça très puissant dans beaucoup de chansons d'Anne Sylvestre, y compris dans celle-là, qui est moins connue, hein, qui est plus dans la Anne Sylvestre plus récente aussi. Mais voilà, j'avais envie de faire entendre cette chanson-là.
J'aime beaucoup ça, ce que tu dis sur le style contagieux, puis la dignité. La dignité aussi, c'est quelque chose qui se transmet. Vraiment quelque chose qui est dur à tuer et qui se passe là, de personne en personne.
J'adore. Et on va retrouver ça aussi dans la chanson « Tout est après », qui est un classique de la musique punk. « Rebel Girl » de Bikini Kill, 1993. On retourne au KGB. « cette chanson-là est tenue comme un hymne pour le mouvement Riot Girl, puis je comprends bon, de différentes façons, évidemment, puis c'est une chanson qui a été emblémisée de différentes façons, mais moi, ce que je trouve vraiment puissant là-dedans, c'est que c'est une espèce de portrait de la révolution faite chair. Et le Rebel Girl, c'est comme... c'est la fille du voisinage qui incarne la révolution. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est Jack Abelstam qui disait « La révolution viendra sous une forme que nous ne pouvons pas encore imaginer. » Et ici, c'est une personne et c'est cet être-là qui apparaît en premier comme un peu comme sur le mode de comme, « Bon, c'est qui cette fille-là qui se prend pour quelqu'un d'autre dans le voisinage avec son super trike? » C'est un tricycle. On ne sait pas trop si c'est de domaine enfantin ou une moto, quelque chose comme ça. Donc, on commence tout de suite avec un regard qui pourrait avoir l'air de, comme, du commérage ou du gossip, là, gossip et, ou du quelque chose comme de malveillant ou envieux. Et très vite, ça se renverse. Et ça se renverse en une attirance qui est complètement assumée, qui est une attirance sexo-affective et en même temps une attirance qui est un désir d'être et de devenir. C'est Rebel Girl, je veux être, tu es la reine de mon monde et je veux que tu viennes chez moi, je veux essayer tes vêtements. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on disait tantôt de la forme qui se transmet, qui est une proposition de disposition devant le monde, devant les choses, et ça se transmet. Et ici, c'est vraiment mis en scène en plus par cette façon de dire, bon, elle incarne la révolution. Quand elle parle, c'est la révolution que j'entends. Mm-hmm. Quand dans ses hanches, c'est la révolution. Quand elle marche, c'est la révolution qui s'en vient. Et quand dans ses baisers, je goûte la révolution. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a l'énergie de la musique punk ici qui est une proposition aussi. Hein. C'est cette drive. Et on n'a même pas besoin de voir Bikini Kill en spectacle, mais quand on les voit, il y avait aussi ça, cette espèce d'affront qui est fait au monde, où on s'assume complètement, et puis on assume une espèce de souveraineté, de souveraineté féministe, joyeusement queer, audacieuse, récalcitrance, tonique, et c'est très efficace, me semble-t-il, ici. Et c'est vraiment une ouverture sur libérer les possibilités qu'on a à l'intérieur de nous, qui se fait par le contact. Et ça, c'est super important parce que parmi les opérations magiques dont j'ai pas encore parlé, mais qui sont tellement importantes, c'est d'être avec des gens, quoi, avec qui on a des choses en affinité. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir d'en parler ici dans ce cadre-là avec toi.
Ouais.
Parce que justement, on sait qu'on a plein d'affinités, puis les affinités avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qui nous font du bien, avec des gens qui nous libèrent, c'est tellement important. Puis on l'a ici, avec surtout dans cette finale-là, de comme je t'aime comme une sœur, je veux que tu sois avec moi tout le temps, je veux être soit ma rebel girl. Et ça, c'est magnifique. Et donc, c'est la constitution d'une chaîne de semblables et d'une... C'est le geste sorcière par excellence qui est de faire cercle. Même à deux... Enfin, à deux, c'est plus difficile, mais à partir de trois, on peut commencer comme à faire cercle. Et l'opération de faire cercle, de faire communauté, ça, c'est une opération magique extrêmement importante et puissante aussi.
Ça me touche beaucoup, tout ce que tu as dit aujourd'hui, qui je me rends compte, est vraiment dans le livre aussi, qui est par rapport à l'embodiment, de comment c'est pas juste dans le monde des idées, mais c'est vraiment dans le corps et qu'on a besoin de ressentir de la joie, du désir, du plaisir, de pénétrer le ecstatic realm ensemble pour parvenir à la libération.
Oui.
Ça prend ça. On peut pas juste important. Think our way outside of oppression. Il faut vraiment que ça passe par le corps. Puis ça résonne vraiment beaucoup.
Mm-hmm. On gagne en puissance à le faire, effectivement.
Ouais. Absolument. Puis tout ce que tu dis aussi sur la Rebel Girl, ça me fait tellement penser à des gens dans ma vie qui ont été ça, tu sais, qui ont été des...
Moi aussi.
Des points tournants, tu sais, puis que par leur façon d'être et de move through the world, de juste leur façon, leur force d'agir, tu sais, ont changé le cours de la vie de tellement d'autres gens, tu sais, qui ensuite eux peuvent faire le même effet aux autres, puis cette espèce d'effet en chaîne, là, c'est vraiment fort.
Et tu sais, si on veut aller dans un domaine complètement éloigné du domaine punk, pour aller dans ce sens-là, Boris Cyrulnik, dans ses écrits sur la résilience, nous dit le premier facteur de résilience, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne la phrase « c'est possible de s'en sortir ».
Ouais.
Et ça va, c'est tout à fait concordant, effectivement, tout ce qu'on se dit. Mais...
Malheureusement, il nous reste 3 minutes. J'aurais aimé passer encore 2 heures avec toi. C'est super intéressant. Puis on a une dernière chanson qui nous reste. Est-ce que tu aimerais
l'introduire et en même temps nous donner le mot de la fin, puis on
la fera jouer en finale. Ouais. Ah ben oui, pourquoi pas. Ben c'est pour terminer peut-être sur cette dimension-là, de faire cercle, de faire communauté. J'ai tenu à finir avec une chanson quand même qui vient des protestants du mouvement américain, qui sont issus de des chansons, des spiritual songs. C'est Sweet Honey on the Rock, qui est une chorale qui interprète We Shall Not Be Moved, qui a d'abord été une parole biblique. Là, je ne bougerai pas, j'aurai comme la foi, comme un arbre qui tient au bord de l'eau. Et très vite, dans les mouvements de pression, ça a été comme tourné en nous. Nous ne bougerons pas. Nous occupons les lieux, donc dans les mouvements qui avaient lieu, et nous ne bougerons pas. Nous resterons ici. Nous nous battons pour la liberté. On se bat pour nos enfants. We shall not be moved. Et il y a quelque chose de absolument magnifique là-dedans, puis qui permet d'éclairer aussi autrement la question de la religion, parce que la religion a une part constantinienne, c'est-à-dire qu'elle peut être du côté du pouvoir, ouais. Mais elle était aussi beaucoup du côté de l'émancipation, surtout tellement. Du côté des populations opprimées, chrétiennes opprimées dans les différentes Amériques. Et ça, ici, on a ça. C'est comme l'énoncé de la verticalité du rapport à Dieu, mais ici, c'est complètement sécularisé dans cette version collective-là. C'est un soutien dans la détermination à agir. Et voilà, ça, on peut terminer tout simplement en écoutant. Donc, « We shall not be moved ».
Merci énormément, Martin Jalbert, d'être venu, d'avoir accepté ce défi.
Merci à toi de m'avoir reçu.
M'avoir accompagné, malgré ma maladresse de live. C'était vraiment un plaisir. Merci pour tout. Et tout le monde, allez lire La parole sorcière, magie, littérature, émancipation aux éditions de la Rue d'Orion.
Egypt, the land that gave birth to rising, the philosophy, science.